Et il est l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, si Anana a été lancée à la fin des années 70 pour affirmer une bande dessinée créée par les femmes, à cette époque, elles étaient peu nombreuses dans ce secteur littéraire dominé par les hommes. Aujourd'hui, autrice, scénariste, dessinatrice, œuvre et renvoie ces temps de disette à un passé définitivement révolu. Claire Bouillac, co-autrice avec Katell Muller de l'adaptation littéraire du premier roman de George Sand, Indiana, œuvre depuis pas mal d'années, notamment 1994, où elle a créé avec Jack Reynald le célèbre personnage de Francis. Indiana, c'est une œuvre du 19e siècle qui questionne encore aujourd'hui cette subordination de la femme à l'homme et le bâillonnement des désirs féminins. Nous serons avec Claire Bouillac à partir de 14h15, 14h20 pour qu'il nous présente son écriture dessinée. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. C'est Claire Bouillac qui a fait la programmation musicale de cette émission. Nous écouterons successivement Kate Bush, Nina Simone et Jan Aded. Alors, Anana, je l'ai évoqué dans le lancement de cette émission. Eh bien, il y a un hors-série qui vient de paraître et qui permet de retrouver cette création qui s'est déroulé de 1976 à 1978. En ouverture, ce propos de Jannick Guillérez, la rédactrice en chef, c'est « Nous étions au-delà du féminisme, nous nous considérions avant tout comme des femmes libres qui avaient enfin la liberté de raconter ce qu'elles ressentaient. » Alors, ce n'est pas simplement la compilation des 9 numéros de la revue, mais au contraire une façon de montrer l'influence déterminante qu'elle a encore sur un certain nombre d'auteurs et d'autrices, bien sûr. Il y avait, de la part des autrices, une appropriation d'un art de la bande dessinée dont elles étaient tenues à l'écart. Alors, ça va bien plus loin que cette simple compilation. Y a la chronologie qui est respectée, puisqu'on va avoir la présentation de chacune des 9 couvertures et avec à chaque fois des commentaires, des extraits de bandes dessinées, les dossiers de l'époque, des entretiens avec des autrices qui vont revenir sur leur passage à Anana, comme par exemple Nicole Claveloux, qui affirme justement que Jannick Guillérez et Jean-Pierre Dionnet ne laissaient une totale liberté et donc leur participation n'était jamais censurée. Ce hors-série de Anana permet un retour sur l'état d'esprit des années 70, sur la relation homme-femme encore corsetée, sur la sexualité qui va être un thème de plus en plus envahissant dans la revue, comme d'ailleurs va le regretter Sota, cofondatrice du Café de la Gare et réalisatrice de Au nom, au long de la rivière Fango, qui est d'ailleurs diffusée dimanche à 18h au cinéma Arc-en-Ciel. On retrouve dans Anana une sélection des bandes dessinées publiées qui sont autant de pépites. On va retrouver les signatures de Cécilia Capuana, de Nicole Claveloux, Florence Sestac, Brouette Hurlante, Olivia Clavel, Chantal Montellier ou Kellec, ainsi qu'une participation de l'autrice américaine Trina Robbins qui rappelle qu'avec Anana, nous nous adressions qu'aux femmes de A à Z et c'était extraordinaire. Il y a même une surprise dans ce hors-série, un roman photo, « L'une chante, l'autre pas », réalisé par Thérèse Lyotard et Valérie Méris, qui est fait d'après les commentaires et les dialogues d'Agnès Varda. C'était dans le numéro 3 en 1977. Un hors-série pour la transmission de cette expérience de liberté que les autrices d'aujourd'hui se sont définitivement appropriées. Virgule. Alors, nous sommes le jeudi 9 novembre et c'est la journée sur le harcèlement et notamment sur le cyberharcèlement qui concerne aussi les jeunes. Plusieurs œuvres dessinées aujourd'hui mettent en perspective cette violence morale exercée dans les collèges, dès le collège et les lycées, et leurs conséquences. Les combats invisibles vont déployer sur quatre titres ces récits, ces thèmes du harcèlement et qui est abordé frontalement. Le premier tome est signé Taous Merakchi, Machi pour la partie dessin et Karim Alian qui va faire aussi une partie du scénario avec Taous Merakchi. Alors le récit. Océane est une collégienne toute simple, ce qui signifie que comme la plupart des filles du collège, elle est malheureusement commentée, jugée ou moquée par certains garçons au gré des tenues qu'elle porte. Une attitude qui possède un nom, le harcèlement. Car quatre collégiens ont carrément créé un groupe WhatsApp de notation des filles. Océane est heureusement aidée par sa copine, Lou, qui va devenir influenceuse et chanteuse à succès. Mais il y a aussi d'autres jeunes filles qui sont harcelées et le récit montre bien trois situations qui peuvent être très différentes, celle d'Océane, mais aussi celle de Manon qui va être marquée très profondément par ce harcèlement dont elle est victime et puis Léa qui, elle, va se suicider. Ce qui est une très bonne chose, c'est que Taous Merakchi est une dessinatrice qui sait tout à fait de quoi elle parle. Dans un document, elle exprime « J'ai moi-même été directement concernée par le sujet et je suis contente de le voir abordé sous différents formats pour tenter de sensibiliser les nouvelles générations. » J'en ai été victime pendant toute la période du collège, ce qui a laissé des séquelles dont je suis encore en train de tenter de me défaire à mon grand âge. De plus, étant désormais mère d'une petite fille, je suis forcément inquiète à l'idée qu'elle puisse subir la même chose dans quelques années. Le récit est fait en partenariat avec deux structures. Il y a notamment Little Spark qui travaille avec les éditions Dupuis, l'éditeur de ces combats invisibles, et qui va justement dans l'univers des ados pour explorer ces sujets sensibles tels que les réseaux sociaux, l'emprise, le consentement et comment faire face à la meute lorsqu'on est soi-même victime de rumeurs. Et puis un autre partenaire que Little Spark, c'est e-enfance/3018 qui lutte contre le harcèlement et 3018 c'est le numéro de téléphone qui permet à toute personne, tout jeune qui se sent harcelé de pouvoir avoir un numéro, un espace de parole et enclencher cette lutte contre les cyberharceleurs. Le cyberharcèlement, c'est mortifère, ça tue des adolescents Il y a eu Marion, il y a eu Lucas, il y a eu Lindsay et plus récemment Nicolas. C'est un fléau et comme l'a très bien montré Taous Merakchi, c'est une chose qui n'existait pas avant les réseaux sociaux et cette impunité, mais il ne faudrait pas dire cela puisqu'il doit y avoir une réponse qui condamne ces agissements. Cet espace où on est masqué, où on n'est pas si visible que cela sur les réseaux sociaux, a déchaîné ce qu'il y avait le pire chez certains. C'est un livre essentiel qui, en tout cas, peut ouvrir des espaces de parole qui vont participer à ce combat contre le cyberharcèlement. Les combats invisibles de Karim Aliane, de Taous Merakchi pour la partie scénario et de Machi pour la partie dessin. C'est publié par les éditions Dupuis dans son label K-Factory. Et les 224 pages de ce récit au format manga sont au prix de 16 euros. Deuxième virgule. Lettre ouverte aux hommes de déshonneur. Vous êtes à l'origine de cette réédition de Libre Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels, 5 ans après sa première édition, parce que vous n'avez pas changé. Vos diktats sont toujours à l'œuvre et 22 chapitres le prouvent encore aujourd'hui. Quand allez-vous cesser d'inventer des vertus au sperme pour convaincre vos partenaires de pratiquer la fellation, d'orienter leur sexualité toujours dans le même sens, c'est-à-dire votre plaisir? Quand vos regards cesseront de scruter les femmes avec ce regard rempli de cet environnement culturel louant la minceur, quelle place laissez-vous à la différence? N'est-ce pas l'essentiel? Quand allez-vous œuvrer pour anéantir ce tabou qu'est la représentation des règles? Cessez votre grimace. Vous trouvez normal que dans une publicité pour les serviettes hygiéniques, les règles sont illustrées par un liquide bleu? Avez-vous pensé à partager la contraception et son coût avec votre partenaire? Vous interrogez-vous sur le diktat de la maigreur, des gros seins, qui est remplacé aujourd'hui par celui des grosses fesses? Quand pourra-t-on enfin exprimer ses choix sexuels sans que vous vous mêliez de tout régenté, commenté, condamné? Avez-vous réalisé que l'arrêt de la sexualité est une véritable stratégie politique? Ce qui n'est pas nouveau, Lysistrata, 411 avant Jésus-Christ, prônait la guerre du sexe pour que les hommes arrêtent justement de faire la guerre. Alors, c'est pas la guerre du sexe, c'est la grève du sexe. Qui êtes-vous pour juger des tenues vestimentaires des femmes, pour les ranger en putes ou soumises? Pour vous, que le corps, qu'il soit montré ou caché, pour vous, cela ne va jamais. Pourquoi la tenue vestimentaire des hommes ne fait jamais l'objet du même débat public? Pourquoi relayer cette norme du pubis rasé, imposée par la publicité, à tel point que circule sur les réseaux cette injonction « Si tu ne t'épiles pas intégralement le sexe, tu ne vois rien ». Et ces tags sur les réseaux asociaux qui sont révélateurs des tabous et des rapports de domination dans notre culture, en quoi correspondrait-il à une sexualité réelle? Et la sodomie, quand allez-vous comprendre qu'elle se transforme en un enfer sur Terre si elle n'est pas consentie à 100%? Elle peut devenir agréable quand elle est ardemment désirée. Le livre d'Ovidie et de Digli aborde aussi les préjugés sur la vulve, sur les injonctions qui serviraient à sauver le couple, sur la relation sexuelle comme devoir conjugal ou le conservatisme sexuel à l'œuvre, par exemple dans 50 nuances de gris. Votre déshonneur est total quand vous vous déchaînez sur les réseaux sociaux. Ovidie a exprimé dans une vidéo que pénétrer une personne endormie, c'est un viol. 3 millions d'internautes ont vu cette vidéo, 30 000 commentaires, dont plus de la moitié dégradant, violent, menaçant même. C'est comme si une ville entière se déchaînait sur les réseaux asociaux faudrait-il dire définitivement. Libre manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels, cette nouvelle édition, vous, homme de déshonneur, vous devez le lire absolument parce que, au moins, vous agirez en conscience ou en inconscience, mais c'est ce qui est dramatique. C'est un livre essentiel à mettre dans toutes les bibliothèques, dans toutes les mains, parce que c'est une véritable parole libératrice et qui va de redonner de la dignité, ben, je l'espère, à certains hommes. Les 176 pages de ce récit, illustrées par Digli, écrites par Ovidie, sont au prix de 24 euros. C'est publié par les éditions Delcourt dans la collection Tapas. Et le livre est imprimé en Belgique. Musique. Walking through the heart. Kate Bush, un titre qui a participé véritablement au lancement de sa carrière. Nous avons quelques difficultés à joindre Claire Bouillac. On va essayer de régler les choses. Alors, je vais quand même faire le lancement de cet entretien, parce que Indiana est une œuvre qui s'inscrit dans un parcours déjà très important, dans une œuvre d'une grande pluralité. Claire Bouillac est la co-créatrice avec Jack Reynald de Francis, dont elle assure le dessin depuis 1994. Alors Francis, c'est certainement un des personnages le plus drôle de la bande dessinée. Et par exemple, si je prends dans le livre « Francis rate sa vie », c'est un recueil d'histoires qui se sont en une demi-page avec trois images à chaque fois. Et il y a donc un humour qui est absolument incroyable. Première image qui revient sur toutes les histoires, Francis se promène dans la campagne. Soudain, il fait tellement d'enfants qu'il bouleverse l'écosystème. Francis et sa femme sont montrés du doigt. On les accuse de nuire à la biodiversité. Leurs amis s'éloignent d'eux, ils ne sont plus invités nulle part. Francis se sent menacé. Il craint d'être exterminé avec tous ceux de son espèce. Par précaution, il fait des enfants. Donc, c'est avec cette première incursion dans la bande dessinée que Claire Bouillac va devenir dessinatrice et puis autrice complète en rentrant à Fluide Glacial. Elle construit donc une œuvre de dessinatrice et d'autrice qui participe à des ouvrages collectifs comme « Les artistes se mobilisent contre les violences faites aux femmes ». Plus récemment, Claire Bouillac s'ouvre à la biographie dessinée avec Rose Valland, capitaine, Beaux-Arts, puis Adieu Kharkov, une biographie de Mylène Demangeau. Elle partage le dessin avec Katel Muller. Ensemble, elle signe des adaptations littéraires et après La princesse de Clèves, elles adaptent le premier roman de George Sand. L'écriture est commune. Katel Muller a dessiné prologue et épilogue et Claire Bouillac a dessiné l'histoire d'Indiana. Son dessin s'appuie sur un trait au plus près des visages, des corps, constamment imprégné d'élégance. Ce premier roman de George Sand questionne le mariage, la subordination de la femme à l'homme et le bâillonnement des désirs féminins. La beauté d'Indiana et celle de Noon sont, sous la délicatesse du trait de Claire Bouillac, renvoient les hommes à l'intrusion de leur séduction persistante et les déboires qui l'accompagnent. L'attention du dessin de Claire Bouillac au décor, à l'inscription du récit dans son cadre historique, finit de donner toute son ampleur à cette adaptation littéraire. C'était donc dans ce contexte qu'est prévue cette rencontre avec Claire Bouillac. Donc on va diffuser le deuxième morceau qu'elle avait prévu, qui est un titre de Nina Simone. Et puis on va essayer de la contacter pour qu'on puisse l'entendre. À tout de suite.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea.
free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Voilà, donc Indiana et son autrice, Claire Bouillac, eh bien, nous allons pouvoir le temps de faire le numéro, on va y arriver. Alors, c'est vraiment un livre dont la couverture vous interpelle par l'élégance du trait. Et c'est cette élégance qui, sur la couverture, est associée à une sorte de mou, de tristesse, d'inquiétude. Et c'est ce qui marque, en tout cas, cette œuvre, premier roman de George Sand, sur cette jeune femme, Indiana, qui est qui est mal mariée, qui est mariée à un vieux colonel irascible. Elle est âgée de 19 ans, elle se morfond dans le manoir conjugal et sa vie va basculer lorsque leur nouveau voisin, Raymond de Ramière, pris à tort pour un voleur par son mari, est recueilli chez elle. Elle va être légèrement blessée et choquée, mais en tout cas le jeune homme va la retrouver et va lui faire une cour très assidue. Et dans ce jeu de séduction, eh bien, elle le croit sincère, alors que le roman va montrer la duplicité du personnage. Ça y est, nous sommes avec Claire Bouillac et nous allons pouvoir rentrer dans et découvrir l'écriture dessinée de cette adaptation littéraire. Bonjour Claire Bouillac.
Bonjour à toutes et tous.
Alors, j'ai évoqué dans le lancement de cet entretien la série Francis, faite avec Jack Reynal. Est-ce que vous avez participé au scénario? Comment se passait cette écriture sur Francis?
Eh bien, tout d'abord, ça se passe toujours. Hein. On est sur le 9e album.
Merveilleux.
Pour Francis, nous continuons avec Jacques à le faire. En règle générale, c'est lui qui fait vraiment les scénarios et moi qui fais les dessins, mais dans la mesure où il dessine aussi, il peut lui arriver d'avoir déjà un petit peu visualisé des images et de me donner quelques didascalies. Et puis parfois, quand il est un petit peu coincé ou quand des histoires me paraissent pouvoir changer pour un mieux, il peut m'arriver d'en parler avec lui. On fait vraiment, on a créé le personnage ensemble et on est vraiment très proches, mais on a quand même bien nos deux objets chacun, lui le texte et moi le scénario. Et moi le dessin, pardon.
Alors, sur Francis, vous vous sentez pleinement en phase avec ces scénarios, puisque déjà 8 volumes parus, toujours ces contraintes avec cette première image et puis ce gag en demi-page.
Oui, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble et c'est devenu un personnage qui vit par lui-même, qui a son propre univers, qui a été adapté d'ailleurs par la compagnie Victor B au théâtre, très bien. Et je retrouve vraiment la possibilité de faire quelque chose d'un peu différent. Déjà, travailler dans l'humour, ce qui n'est plus trop le cas quand je travaille avec Catel. Et quand je n'aime pas un scénario, je le refuse à Jacques, il va le retravailler de la même façon que lui peut me faire refaire une image si vraiment elle ne lui convient pas.
Alors Claire Bouillac, il y a une ouverture qui s'est faite avec la biographie dessinée, donc je pense à celle de Mylène de Mangeot, et puis plus dernièrement à l'adaptation littéraire. Alors qu'est-ce qui vous intéressait dans cette présence déjà d'une matière narrative apportée soit par la vie de la personne dont vous faisiez la biographie ou par le roman lui-même?
Au départ, je ne dirais pas que c'est un hasard pour l'aventure avec Mylène de Mongeau. Ça a été une amitié avec Catel, qui l'avait rencontré en premier et qui avait pensé à adapter les Lilas de Kharkov qu'elle avait lues, qui en effet est quelque chose de très très visuel. Enfin, on voit immédiatement quand on lit qu'on peut en faire quelque chose de très intéressant avec des images. Mais comme elle avait beaucoup beaucoup d'autres projets, elle m'a proposé de travailler dessus. Il se trouve que je me suis aussi très très bien entendue avec Mylène, que le projet s'est monté un petit peu au fur et à mesure qu'on avançait, c'est devenu naturel. Bon, évidemment, avec a posteriori, j'ai l'impression de dire que tout s'est mis tout seul en place. Bon, ça n'a pas été aussi simple sur le moment, bien sûr, mais il y avait quand même quelque chose de naturel et de logique dans la façon dont ça s'est passé. Et ensuite, lorsque nous sommes aperçus qu'on arrivait à la fin, Catel et moi, on avait très très envie de continuer à travailler ensemble. Et c'est José-Louis Boquet, notre éditeur sur Adieu Kharkov, qui nous avait dit, mais maintenant faites la princesse de Clèves. Et en fait, c'était un petit peu entre la poire et le fromage qui nous disait ça. Nous, on ne l'avait pas relevé plus. Puis au fond, au fur et à mesure, en y réfléchissant, on s'est aperçu que la fille de Catel, à ce moment-là, venait de passer le bac de français, n'avait pas aimé la princesse de Clèves. Et nous, on avait aimé toutes les deux ce texte. Et on s'était dit, tiens, elle passe à côté de quelque chose quand elle nous en parlait, parce que c'est une grande lectrice, sa fille, mais tout de même, elle était passée à côté de quelque chose. Et puis voilà, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, en effet, avec une adaptation et offrir une autre forme à des œuvres littéraires qui nous ont beaucoup plu. C'est un petit peu comme ça que tout s'est mis en place, de la même façon. C'est un puzzle qui se met un petit peu... À la fin, quand on arrive à la fin, on se dit, ben voilà, on en est arrivé là, c'est logique et on ne pouvait pas arriver autre part, mais ça passe par tout un tas de réflexions et maintenant, oui, on arrive à une forme de collection, d'adaptation d'œuvres littéraires, d'écrivaines avec des héroïnes et tout s'est construit un petit peu naturellement.
Alors, Claire Bouillac, avec Catel Muller, vous êtes toutes les deux dessinatrices, scénaristes. Comment s'est mis en place votre collaboration? Alors, par exemple, sur Indiana, il y a aussi ce prologue et cet épilogue qui mettent en perspective l'adaptation littéraire elle-même.
Oui, alors nous sommes rencontrés, Catel est assez sujette aux coups de foudre amicaux, j'ai l'impression. En tout cas, ça a vraiment, on s'est tout de suite très très bien entendu. On s'était rencontrés à l'occasion du, du Festival d'Angoulême, et il se trouve qu'étant voisine physiquement à Paris, on avait pris le même chemin pour revenir. Et Catel m'a très vite proposé de travailler avec elle sur des scénarios pour enfants. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que non seulement on pouvait être très amis, mais qu'en plus on travaillait bien ensemble, ce qui n'est pas forcément automatique ni dans un sens ni dans l'autre. Et après avoir fait Rose Valland, sur lequel j'avais plutôt fait le scénario avec l'historienne Emmanuelle Polak, on est allé comme ça petit à petit, quoi, par faire des histoires courtes pour la jeunesse, puis par faire cet album de Rose Valland. Et voyant que décidément on arrivait vraiment bien à travailler ensemble, on en est arrivé à faire Radio Kharkov. Et puis ben, les choses se mettant en place, surtout à partir d'Adieu Kharkov et puis de La Princesse de Clèves, La Princesse de Clèves nous a semblé nécessiter une contextualisation avec Madame de Lafayette, l'autrice, parce que nous nous sommes aperçus qu'il y avait des rapports entre ce qu'elle racontait et sa propre vie, même si c'était à 100 ans de distance. Bon, évidemment, on parle souvent de soi quand on fait des livres, hein, bien sûr. Et puis, bon, ben, on a commencé à se dire, voilà, ce serait pas mal. Et Catel m'a dit, bah, comme moi, je fais beaucoup, j'ai peu de temps pour le dessin, parce que elle fait déjà les biographiques, comme elle les appelle, avec José-Louis Boquet, sur des femmes comme Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker. Elle était plutôt d'accord pour avoir la partie prologue et épilogue, et ça tombait très bien. En fait, ça s'est mis à fonctionner assez rapidement seul. Donc on fait toutes les deux un découpage, puis un storyboard où on est physiquement côte à côte. On travaille ensemble vraiment. Et puis ensuite, chacune part avec sa partie sous le bras à dessiner.
Sur le storyboard, vous arrivez à garder, donc à trouver cette fluidité, parce que c'est une des marques de, aussi bien de La Princesse de Clèves que d'Indiana, cette lecture du récit, cette précision dans le découpage, dans les cadrages. Il y a un temps de repos pour ce storyboard avant de vraiment lancer la partie dessinée, pour être sûr de son déroulé.
On le fait en parallèle, parce qu'il faut que nous soyons toutes les deux disponibles. C'est pas forcément le cas, on a d'autres projets et puis on n'est pas forcément sur Paris tout le temps, donc on se cale des jours de temps en temps, et on a une vingtaine de pages là actuellement pour le prochain, par exemple. Alors c'est souvent un travail qui est très passionnant, parce que ben, sur ces albums-là, on a choisi comme parti pris de conserver la musicalité de la langue des autrices, qui fait que c'est une langue qui est parfois un petit peu, qui a des sonorités un petit peu désuètes pour un lecteur moderne. Et donc il faut l'adapter, le rendre compréhensible, tout le temps en y restant aussi fidèle qu'on peut. Et puis il y a des choses qui ne sont pas forcément adaptables telles quelles, évidemment, sous une autre forme, comme la bande dessinée, par rapport au texte. Bon, les choses les plus simples auxquelles on pense, c'est... Si on nous décrit quelque chose et qu'il va falloir le dessiner, il va falloir trouver les solutions. Si on nous dit qu'il y a un banquet, il va falloir savoir comment se passait le banquet à cette époque. Mais aussi, si l'autrice nous dit qu'elle va dans sa chambre, elle pense ceci, elle pense cela, elle pense ceci et puis cela, et puis elle se dit que ceci, et puis après elle résume à cela. Évidemment, on ne peut pas faire ce genre de choses en bande dessinée. Donc, il y a parfois des solutions à trouver. Là, et ça, on a un vrai échange. Parfois, on arrive à vraiment dérouler plusieurs pages en une seule séance de travail, parce qu'il y a des séquences qui nous paraissent plus évidentes peut-être, ou qui le sont tout simplement. Mais aussi, parfois, on reste assez longtemps, même parfois sur une simple phrase qui peut être difficile, sur des mots, sur des compréhensions qui nous semblent... à l'une et à l'autre un petit peu différentes. Donc on va discuter longtemps pour arriver à trouver ce qu'on veut. Et après, pour ce qui est de l'image, comme on dessine toutes les deux, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir projeter des images toutes les deux qui vont être un peu différentes, et qu'on va pouvoir soit concilier, soit faire un choix entre les deux, pour que l'album soit le meilleur possible. Mais à partir du texte qui existe. Il y a quand même un très gros travail de, parfois dans la narration, de l'ordre chronologique. On va aller chercher les idées les plus importantes, les choses qu'on veut vraiment mettre. Par exemple, dans La Princesse de Clèves, il y a 4 récits enchâssés. On en a retiré un parce qu'il nous semblait que dans la bande dessinée, il ne servait pas vraiment ce qu'on voulait faire. Et puis après, aller choisir vraiment, peut-être parfois revenir à des choses qui sont plus avant dans le roman, mais le mettre autre part pour pouvoir avoir une narration. Puisque c'est un autre médium, il faut s'adapter.
Claire Bouillac, qu'est-ce qui a présidé au choix d'Indiana? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage du premier roman de Georges Sand?
Ah, eh bien, quand nous avons commencé à mettre en place notre idée de faire une série sur des écrivaines, évidemment, nous avons eu une petite liste des autrices que nous voulions aborder. Et Georges Sand est arrivé très vite, bien entendu, et nous y réfléchissions. En fait, on est assez vite d'accord sur les autrices, pas forcément sur l'œuvre à adapter. Mais pour Georges Sand, évidemment, il y avait les plus connus sont La Petite Fadette, La Mare au Diable, François le Champy, tous ces romans champêtres qu'elle a fait plutôt à la fin de sa vie, et qui ne nous paraissaient pas être forcément les plus intéressants. Et moi, j'avais lu Indiana, j'ai lu pas mal Georges Sand, un de mes plus beaux souvenirs de lecture, c'est Consuelo, mais Consuelo me semblait pas l'œuvre à adapter. Et j'ai tout de suite parlé d'Indiana à Catel, qui ne l'avait pas lu, qui l'a lu et qui a été tout de suite enthousiaste parce que c'était exactement ce qui nous paraissait coller avec l'idée qu'on se faisait de Georges Sand et l'idée aussi qu'on voulait redonner de cette personne qui soit on s'en souvient soit comme d'une femme qui s'habillait en homme, qui était un peu scandaleuse, qui avait des amants à une époque où c'était quand même pas forcément bien vu de l'afficher de cette façon, et ou alors qui est la bonne dame de Nohant, qui écrit donc La Mare au Diable et qui écrit des romans qui ne sont pas très subversifs, il faut bien le dire. Et Indiana nous a tout de suite paru complètement adapté, ce côté complètement passionnel, ce côté un peu fou aussi, peut-être qu'elle peut avoir parfois avec des réactions peu réfléchies, mais tout dans l'amour, parce qu'il y a aussi cette dimension autour de laquelle on travaille depuis Adieu Kharkov, où ce qui nous avait intéressé, c'était la transmission de la mère à sa fille et la façon dont on pouvait voir l'amour, parce que pendant des siècles, la femme ne pouvait pas tellement s'attaquer à autre chose qu'à cette image-là. Elle était un petit peu enfermée là-dedans, puisqu'elle ne pouvait pas travailler, il y avait des tas de choses qui lui étaient interdites. Et c'est souvent autour de ça que les autrices parlaient. La Princesse de Clèves, c'est quand même ça qui est central. Indiana aussi, c'est ça qui est central. Alors, très vite, on s'est aperçu que oui, le roman nous plaisait, nous parlait à toutes les deux, c'était celui qui nous paraissait le plus adapté. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'en plus de ça, c'est un roman qui, à son époque, est sorti en même temps que Notre-Dame de Paris de Hugo, mais a eu plus de succès à ce moment-là. C'est son tout premier sous son pseudonyme, qu'elle a sorti seule. Et bizarrement, c'est un roman que très peu de gens ont lu, j'en suis aperçu depuis qu'on en parle. Il y a vraiment un nombre très très petit de gens qui l'ont lu.
Claire Bouillac, à quel moment le dessin arrive dans ce travail avec Catel?
Ah bah dès le storyboard. Dès le storyboard. Donc on fait un découpage avec parfois déjà un petit peu des idées, mais c'est vraiment un découpage écrit. Moi, très très vite, je commence à chercher les personnages. Et puis à me faire un petit catalogue de documentation pour les décors, les vêtements, les choses comme ça, bien sûr, mais surtout les personnages. Donc très très en amont, hein, je pense que de toute façon, toutes les deux, on est vraiment très dessinatrices. On passe très très vite par l'image. Même quand on... toute première chose, quand on s'explique quelque chose, on va tout de suite dessiner. Et alors au storyboard, bon bah là, il va y avoir déjà des expressions, tout un tas de codes qu'on va faire intervenir d'ores et déjà. Mais dès le départ, je commence à réfléchir pour ma part à mes personnages. Qu'est-elle ? Bon bah, elle représente l'écrivaine, donc c'est un personnage qui existe, donc c'est pas la même recherche. Mais moi, je vais aller réfléchir parfois avec elle à quel acteur, par exemple, tu verrais pour tel personnage, et on va en discuter parce que ça va définir aussi son caractère, sa façon de bouger, de réagir par moment. Enfin, ça va pouvoir nous permettre de cerner un petit peu les personnages tels que nous on les voit, parce qu'évidemment, dans une adaptation, c'est forcément notre vision et notre lecture du livre.
Alors, Claire Bouillac, la couverture représente Indiana en plan américain. Son portrait et son regard captent le lecteur. Comment se fait un dessin comme ça ? À quel moment vous vous dites, là, c'est juste ? Est-ce qu'il y a une difficulté à proprement parler pour réaliser ce type d'image ?
Alors ça, c'est amusant comme question, parce que je me la pose, en fait. Pour la princesse de Clèves, ça s'est fait de la même façon. Pour la princesse de Clèves, on s'était dit, bon, on fera son visage sur la couverture, et on avait décidé d'avoir... on avait eu vraiment envie d'avoir le titre comme ça, qui se plaçait sur son torse. C'était un peu... une idée qu'on avait eue pour le graphisme, quoi. Et bon, voilà, ça s'était résumé à ça. Et puis, il y a eu un jour, et vraiment, je ne peux pas savoir pourquoi c'est ce jour-là plutôt qu'un autre. Tout à coup, je me dis, tiens, je crois que je vais essayer de faire la couverture aujourd'hui. Donc, je sors le papier à la bonne taille, et puis je fais le dessin. Et c'est le bon. Et ça m'a fait exactement la même chose pour Indiana, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'était plutôt... je dirais pas vers la fin de l'album, mais enfin j'avais passé la moitié quand même. Et tout à coup, bah, je pense que c'est un moment donné aussi où le personnage s'est mis à vivre, parce que c'est un personnage qu'on accompagne dans chacun de ses livres. Ce sont des personnages qu'on accompagne pendant parfois 3 ans, qui nous accompagnent aussi, qui se mettent à vivre, comme je le disais tout à l'heure. Dans la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose que je ressens très fortement. Alors par exemple, dans Francis, dont on parlait tout à l'heure, les personnages... ont leur propre caractère et ont leur vie propre aussi. C'est-à-dire que quand Jacques me donne un scénario en me disant, ben voilà, il va y avoir un des personnages qui va faire telle ou telle chose, il a pas forcément besoin de me dire quel personnage va le faire, parce que les personnages ont déjà leur caractère qui fait qu'ils vont que ça va être celui-là qui va faire ceci ou cela, forcément. Et avec Indiana, avec la princesse de Clèves et avec maintenant Gigi, puisque là on a commencé à adapter Gigi de Colette pour le prochain, Gigi, c'est pas encore le cas. Elle ne vit pas encore complètement, parce que je suis au début, j'ai pas fait 10 pages encore, donc je continue à la chercher un petit peu. Mais au bout d'un certain nombre de pages, qui est indéfinissable, hein, c'est en fonction de plein de choses, il va y avoir tous les personnages vont se mettre à réagir, à m'aider à faire l'acting aussi, quand je vais les dessiner, et vont avoir des expressions, des choses, alors bien sûr qui vont être en partie moi, qui jouerai probablement leur rôle de cette façon et qui joue en dessinant, mais à un moment donné, vraiment le personnage principal, la princesse de Clèves ou Indiana, va exister par elle-même, et à ce moment-là, à un moment donné, je suis presque à dire, elle va m'appeler, me dire, vas-y, maintenant c'est le moment de me dessiner, quoi. Et c'est comme ça que ça se fait, et c'est le premier dessin, et il y a vraiment un moment où je me dis, bon, allez, sors ta page, c'est maintenant. C'est maintenant tout de suite, et c'est pas dans une heure.
Quelle dessinatrice êtes-vous, Claire Bouillac ? Parce qu'il y a, par exemple, dans vos dessins, et ça se voit tout au long du livre, il y a une élégance, un trait d'une grande précision, au plus près des corps, de leur gestuelle. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous dessinez ? Est-ce qu'il y a une tension ? Est-ce qu'il y a au contraire... une sérénité pour que le trait soit le plus limpide, fluide. Comment ça se passe ?
Bah, je vous remercie déjà. Quelle dessinatrice je suis? Je dirais que je suis une dessinatrice pathologique, c'est-à-dire que je dessine en permanence sur un coin de table, sur ma main. Je ne dessine pas de façon à marquer des choses, mais je dirais que je prends des notes visuelles en permanence. J'ai l'impression que le dessin, je n'arrête pas, en fait. Je m'arrête quand je dors. Donc, je ne saurais pas analyser vraiment dans quelles conditions je me mets et ce que je convoque quand je me mets à ma table à dessin. J'ai une très grande concentration très vite. On peut me faire peur simplement en ouvrant la porte, mais je joue un peu les personnages. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je crois qu'il y a de ça. Moi, au départ, je viens aussi du dessin animé, et peut-être que ça se joue avec ça. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
C'est très bien. Alors, on se rapproche, on essaye. On est presque à côté de vous dans votre atelier. Et quelle est l'ambiance musicale de votre atelier?
Alors, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment parce que je n'ai pas que des ambiances musicales. J'ai aussi pas mal de podcasts. Et ça dépend des moments. Je peux aussi travailler en silence complet. Bon, ça c'est plutôt quand je fais du texte, quand je dois me concentrer d'une certaine manière et puis que je ne dois pas laisser partir mon esprit, parce que par exemple quand j'ancre, je peux complètement être attentive à ce que j'écoute, et j'aime bien écouter des podcasts quand j'ancre et quand je crayonne plutôt de la musique. Mais il y a un peu de tout, c'est très éclectique, et pas mal de voix de femmes.
Merci beaucoup Claire Bouillac. Donc on sera très attentif à la sortie de Gigi, qu'on va bien sûr relayer. Peut-être que ce sera l'occasion d'un autre entretien.
Ce serait avec plaisir.
Alors, je rappelle les caractéristiques de votre livre, donc Indiana, qui est réalisé avec Catel Muller. Les 176 pages de ce livre sont au prix donc, de 25,50 €. C'est publié par les éditions d'Argo. Et très bonne continuation à vous. Au revoir Claire Bouillac.
Je vous remercie. Au revoir, merci beaucoup.
Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas, tout ne va pas bien, mais ce n'est qu'un au revoir, au moins jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas, le contraire de tout n'est pas rien. Je sais. Pour de bon, et pourtant si amer que soit mon départ,
Voilà, c'était Jeanne Adède, le dernier titre choisi par Claire Bouillac. C'était Fabien qui était à la technique. On se retrouve la semaine prochaine avec certainement Fabrice Naud qui et on parlera d'autobiographie dessinée. Et bien, très bonne semaine à tous et bonne continuation sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.